Il est 1830 avant de passer à la Dodge Murano. Pas la Dodge, qu'est-ce que je dis là? La Nissan Murano, je lisais Dodge à côté, excusez. Donc, la Nissan Murano, il y a une question, c'est Silvio qui se demande si un concessionnaire Peugeot au Québec, les bonnes vieilles Peugeot.
Un concessionnaire, il n'y a pas de concessionnaire, mais il y a des garagistes, puis ils doivent commencer à prendre de l'âge, les garagistes qui sont habitués à jouer dans les Peugeot. Parce que Peugeot, là, ça nous a quittés de mémoire, là. J'ai pas fait de vérification. C'est dans les années 80, moi je me rappelle, les dernières voitures Peugeot, c'était vendu par des concessionnaires Chrysler. Mm-hmm. Il y avait une entente.
Dans les années 80.
Ben, c'était dans les années 80, début des années 80, peut-être milieu.
Mettons.
Ça fait au moins 30 ans que Peugeot a quitté le marché canadien, québécois.
Pendant que tu racontes ça, Jean-François, j'ai trouvé une information ici. Le constructeur Peugeot prévoit revenir sur le marché nord-américain d'ici 2026. Quand on parle d'un engagement, quasiment un engagement électoral, celle-là, on s'est donné une fenêtre de 10 ans à compter de 2016. Donc, d'ici 2026, Silvio, peut-être que vous allez pouvoir acheter une Peugeot flambant neuve au Québec, mais d'ici là, ce qui devrait rester sur notre territoire, c'est des voitures qui ont une trentaine d'années. Voilà.
Bon, tu vois, c'est parce que Peugeot, là, on s'entend qu'en Amérique du Nord, le gros la majorité des ventes, en tout cas, le segment en pleine expansion, les segments en pleine expansion, c'est les VUS.
D'accord.
Peugeot a seulement deux modèles de VUS. Ils ont le modèle 3008 et 5008. Et, par contre, ils ont des petites voitures.
Oui.
Puis ils ont des petites. Donc, puis il y a de plus en plus de constructeurs américains, notamment, qui abandonnent les petites voitures. Fait que peut-être qu'il y aurait une possibilité.
Il y aurait un bout de marché, là, qui.
Ben, ils pourraient faire une association avec un constructeur.
Ouais, parce
Fiat est avec Chrysler.
Là, comme tu le disais, t'es pas obligé d'avoir pignon sur rue, t'as juste à t'associer avec un distributeur américain et puis
effectivement.
Prendre une petite place dans le showroom et voilà. Bon, ben c'est fait. Donc Silvio, c'était votre réponse. On y va avec la Nissan Murano. Ça fait un petit bout de temps que tu vas en parler. Ben, c'est ce soir qu'on réalise ton rêve.
Ben,
vas-y.
Tu vois la Murano, Sylvain, j'ai essayé cette voiture-là en même temps que le Buick Enclave.
Oui.
Et j'avais l'impression là de rêver, dans le sens suivant. Pour moi, le Murano, c'était un VUS avec une vocation sportive.
Mm-hmm.
Et le Buick Enclave avait, pour moi, une vocation davantage axée sur le confort.
Oui.
Mais là, c'était comme inversé. L'Enclave avait une suspension assez rigide, le modèle, la version Avenir que j'ai essayé. Ça, c'est une nouvelle version, Avenir, A-V-E-N-I-R. Et je trouvais que la tenue de route, tout ça, était quand même la tenue de route était quand même assez, pas sportive, mais assez dynamique. Alors que le Murano, suspension assez confortable, silence de roulement. Donc, j'avais l'impression que le Nissan était un Buick, finalement.
Ouais.
Parce que le Murano, là, si on se rappelle, la première génération avait fait sensation. C'était à l'époque, quand ce véhicule-là avait été dévoilé, je pense en 2003, les gens disaient « Wow, c'est comme un véhicule concept ». Puis à l'époque, il y avait des roues de 18 pouces. Aujourd'hui, la plupart des véhicules ont des roues de 20 pouces. Mais dans le temps, 18 pouces, c'était comme avant-gardiste. Hein?
Mm-hmm.
Mais je vous dirais qu'au fil des ans, le Murano s'est embourgeoisé. Donc, c'est un véhicule extrêmement confortable, extrêmement silencieux, qui a quand même une très belle, une belle gueule, hein, disons-le. Pour 2019, ils ont retouché la partie avant. Maintenant, c'est vraiment avec une espèce de calandre en V. Le niveau du profil aussi, il y a eu des retouches esthétiques. Donc, c'est un très beau véhicule. Par contre, c'est une conduite un peu aseptisée, dans le sens que la direction manque peut-être un peu de fermeté, puis vous n'avez pas l'impression là de faire corps avec le véhicule comme avec d'autres VUS sur le marché.
OK.
Et aussi, au niveau du tableau de bord, ça mériterait d'être réaménagé parce que il est assez élevé et dépendamment du gabarit de chacun, mais je pense que les petites personnes ont un peu de misère à connaître les dimensions du véhicule, surtout.
Mais ça se pourrait. Est-ce que ça se pourrait que ce soit un mal qui est de plus en plus répandu dans la conception des intérieurs de voitures, les tableaux de bord qui sont exagérément élevés parce qu'il y a bien de la bebelle à mettre dedans, là, et notre champ de vision est rendu très écrasé.
Ouais.
Les toits vont aller très bas, les tableaux de bord montent, à un moment donné, tu as l'impression de regarder ça à travers, de voir ton champ de vision en cinémascope. C'est un petit peu troublant par bout.
Oui, je te rejoins avec, là-dessus. Effectivement, les pare-brises sont très inclinés.
Oui.
Ils sont grands, les pare-brises, mais le fait que ça soit incliné, comme tu dis, le champ de vision en mm-hmm. hauteur, notamment, ouais. hein, même, admettons, on arrête un feu rouge et si on est trop près, admettons, des poteaux, hein.
On se penche pour
on
voir.
On voit même pas les feux rouges. On se fait klaxonner parce que.
Ben, c'est vrai que moi, je mesure au-dessus de CC1, là. Ouais. Mais je suis obligé de me pencher pour voir souvent. Puis l'an passé, pour les vacances avec les enfants, j'avais loué une caravane. Mmh. Puis la caravane, à tous les coins de rue, j'étais obligé de me pencher pour voir ce qui se passait, pour savoir si le feu avait changé. Pour ça que quand le tableau de bord monte, puis que le toit est très incliné, à un moment donné, ce qui te reste, c'est une espèce de lorgnon. Il ne faut pas grand-chose.
Ben, tu vois, ce midi, moi, avec la masse de trois, ouais. j'ai arrêté dans un... Je nommerai pas le nom du restaurant, mais un service à l'auto, m'acheter un café.
Mm-hmm.
Et puis, je voyais même pas le menu, tellement que la fenêtre latérale était petite.
Ouais.
Puis à cause du pare-brise qui est incliné, le pilier B, là, le pilier A plutôt, mais je voyais à peine le menu. Donc, il fallait que je me penche, comme tu dis, je me sorte la tête à l'extérieur du véhicule pour constater le menu.
Ben, c'est ça, c'est des voitures diète, finalement, pour nous empêcher d'aller dans les fast-food.
Effectivement, j'ai pris juste un café.
Bon, ben, tu vois, c'est parfait. Pas pris de ça, même pas de lait à part de ça. Donc, c'est pour le Nissan Murano, est-ce que on peut lui accorder une cote sur 10?
Moi, je dirais 7 sur 10.
Hop.
Parmi les points forts de ce véhicule-là, je vous dirais le moteur, bien entendu, le V6 3.5 litres, un moteur qui a fait ses preuves chez Nissan, qui c'est un moteur à toute épreuve. Donc, ce moteur, il développe 260 chevaux. Mm-hmm. Il y a une transmission, par contre, CVT. Ce modèle-là avait inauguré la transmission CVT chez Nissan. Elle est bien rodée, mais okay. c'est un petit peu hésitant, puis c'est un peu bruyant comme transmission.
Parfait.
Et pour le reste, c'est silencieux, c'est confortable. Et
c'est pas
le tableau de bord pourrait être redessiné.
Ouais. Parfait. Est-ce qu'on va au téléphone tout de suite? Parce qu'il y a Francis qui est là. Francis qui a même pris la peine d'enlever son Bluetooth pour nous parler. Bonsoir, Francis.
Bonsoir, ça va bien?
Ah, c'est le plus beau soir de notre vie, monsieur. Allez-y, on vous écoute.
Bon, parfait. Deux questions, je vais faire ça rapide. Jean-François, as-tu la chance d'essayer le nouveau Jeep Gladiator?
Je l'ai essayé, mais pas longtemps, mon cher Francis.
OK. J'aimerais savoir la place arrière.
Ouais.
Est-ce que deux adultes est confortable ou trois enfants là, assis en arrière?
Je te dirais que oui. Par contre, on s'entend que la banquette arrière, les sièges, c'est pas des bancs d'église, là. C'est dans le sens mm-hmm. que c'est à angle droit, là, quasiment le dossier. Là.
Okay.
Ça, c'est okay. un peu comme dans le Wrangler Unlimited. Là. Ça pourrait disposer des gens peut-être sur une longue distance, mais outre ça, c'est potable. Mais c'est pas le confort ouais. absolu.
Bon, parfait, numéro un. Et deuxième question, fiabilité d'un Dodge Durango, peu importe le moteur, est-ce qu'on est mieux d'y aller avec le V8 ou le V6 Fantastar peut faire la job?
Ben, est-ce que vous devez faire du remorquage, vous? C'est-tu pour ça?
Ben, c'est pour upgrader. En ce moment, j'ai un Sorento à 5000 livres, mais j'aimerais ça peut-être regarder pour quelque chose qui peut tirer un petit peu plus gros pour avoir une roulotte d'un 4000, là. 4000 livres avec le Sorento, ça commence à être un peu flush, mettons.
Ouais. C'est sûr qu'avec le V6, là, ça, vous allez être capable, je pense, de tirer facilement 5000 livres. Donc, il n'y aura pas de problème.
6200. 6200 avec le V6. 6200 avec le V6.
OK, OK. D'abord, c'est avec le
V6. Je veux savoir la fiabilité du Pentastar. Est-ce que on serait mieux d'aller avec le V8 pour avoir la tranquillité d'esprit ou le V6, tu peux faire la job?
Mais moi, je pense que le V6 va faire la job, là, comme vous dites. Là.
OK.
Ouais.
OK.
Parce que le V8, on s'entend, là, c'est extrêmement puissant, le V8. Là, vous n'aurez pas de mm-hmm. difficulté à tracter n'importe quoi avec ça, ou presque. Sauf qu'au niveau de la consommation, dites-vous là que vous allez consommer peut-être un 20% de plus là, qu'avec le V6.
OK, parfait. C'était vraiment juste pour fiabilité dans ma tête. Moi, le V6 Pentastar, je sais pas. Je connais la réputation des MI, mais celui du V6, je l'aime moins un peu. Mais ça peut être aussi fiable, ben, on va y aller avec ça d'abord.
Ben, peut-être au niveau de la fiabilité, là, peut-être un petit peu moins. On s'entend que le V8, comme vous dites, le V8 a fait ses preuves. Par mm-hmm. contre, si on regarde la consommation du V8 là, ben, versus le V6, moi, j'irais davantage avec le V6.
OK. Puis, j'ai-tu une dernière petite question rapide?
Oui.
Oui. J'aimerais savoir pourquoi Chrysler, Jeep, Dodge sont jamais capables d'offrir des taux de financement qui ont de l'allure. C'est le même taux de financement pour un véhicule usagé qu'un véhicule neuf.
Oui. Bien, ça, là, Je pourrais pas vous dire comme ça, là, c'est quoi, pourquoi, là. Ben, on se rappellera de toute façon que Chrysler, hein, ont eu des problèmes financiers. À un moment donné, ils finançaient eux-mêmes, là, le clientèle. Ils faisaient la location, tout ça. À un moment donné, ils ont abandonné ça, là, à partir de 2008, là, 2009, quand il y a eu la fameuse crise, dans le milieu automobile. Mais, outre ça, je pourrais pas, pourquoi que c'est comme ça, je ne sais pas. C'est peut-être mieux poser la question directement au concessionnaire.
Bon, ben c'est parfait. Je vous remercie beaucoup.
Salut.
Au revoir.
Salut, Francis. Merci. Tiens, pendant que nous y sommes, j'ai une communication ici. C'est à Saint-Lambert. Il y a la 11e exposition des voitures classiques de Saint-Lambert. C'est dimanche, pas celui-ci, l'autre après le 18 août. Dimanche 18 août, c'est de 10 à 16 heures, 10 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Je suis déjà allé là. De la belle bagnole, là. T'en as un paquet. C'est vraiment une belle exposition, puis c'est sur la rue Victoria à Saint-Lambert.
En centre-ville.
Ah oui, t'es...
Un beau petit centre-ville à Saint-Lambert.
Ben, je comprends. Puis il y a des bars là-dedans, puis tout, tu peux aller prendre une bière, ou tout de même. je vais pas vous dévoiler tous mes vices. Non, mais ben, pas de farce. Ça, c'est dimanche, pas celui-ci, l'autre après, le 18 août. J'invite les gens à aller faire leur tour là, parce que vraiment... Vous allez vous rincer l'œil de la belle vieille bagnole. Tu sais, quand tu vois ça, là, avec du chrome, là, puis des ailes qui partaient, des chars d'orgueilleux. Là.
Ouais,
c'est ça. Ça fait que ça se passe à Saint-Lambert le 18 août, de 10h à 16h. On va aller vers la pause. Hey, ça sonne. Donc, pendant la dite pause, je vais prendre vos appels. Puis après ça, vous allez pouvoir poser vos questions à Jean-François Guay, lui-même en personne. On parle auto. 514-790-0224, Montréal, de partout au Québec, 1-800-667-5241. Vous écoutez Fabi la nuit, de retour dans deux minutes.